Retraite. Lorsqu'ils eurent précipitamment passé l'ouverture découpée au laser, il sembla à Norton que les six soleils de Rama brillaient d'un éclat inchangé. Pieter aura certainement fait une erreur, pensa-t-il. Cela ne lui ressemble guère. C'était précisément cette réaction que Pieter avait prévue.
C'est arrivé si progressivement, expliqua-t-il d'un ton d'excuse, qu'il m'a fallu longtemps avant de remarquer une différence. Mais il n'y a pas de doute, j'ai effectué des mesures. L'intensité lumineuse a baissé de 40%.
Maintenant que Norton s'était réaccoutumé à la clarté après le séjour dans la pénombre du temple de verre, il ne pouvait que croire Pieter. Le long jour de Rama touchait à sa fin. Bien que la chaleur fût égale, Norton se surprit à frissonner. Il connaissait cette sensation depuis certains jours d'été sur Terre. Il s'était produit une inexplicable baisse de luminosité, comme si s'abattait une brume de ténèbres ou comme si le soleil avait perdu sa force et pourtant le ciel était vierge de nuages. Puis il se souvint. C'était le début d'une éclipse partielle. « Nous y voilà, » dit-il d'une voix sombre. « Nous rentrons. Laissez les équipements sur place, nous n'en aurons plus besoin. » Il espéra que les événements lui donneraient raison sur le point suivant. S'il avait choisi Londres pour cette dernière mission, c'était parce que aucune autre ville n'était aussi proche d'un escalier. La première marche de Beta n'était qu'à 4 kilomètres. Ils adoptèrent les longues foulées qui étaient le pas de course le plus praticable à mi-gravité. Et Norton imprima une allure qui, selon lui, les amènerait au bord de la plaine sans fatigue en un temps minimal. Il avait très précisément présent à l'esprit les 8 kilomètres qu'il aurait à gravir une fois Beta atteint, mais il se sentirait bien plus en sécurité quand la montée serait effectivement entamée. Le premier tremblement survint alors qu'ils étaient tout proches de l'escalier. La secousse fut légère et instinctivement, Norton se retourna vers le sud, s'attendant à voir les feux d'artifice se rallumer autour des cornes. Mais Rama paraissait ne jamais se répéter exactement. Si les pics effilés étaient le théâtre de décharges électriques, elles étaient trop faibles pour être visibles. « J'appelle la passerelle du commandant, » dit-il. « Vous avez perçu quelque chose ?»«
Oui, capitaine, un choc très faible. Ce pourrait être un autre changement d'assiette. Nous comparons avec nos gyroscopes. Rien encore. Si, attendez. Je lis quelque chose. À la limite du détectable. Moins d'un microradiant par seconde, mais persistant. »
Bien qu'avec une insensible lenteur, Rama était en train de virer. Les chocs précédents n'avaient peut-être été qu'une fausse alarme, mais là, ce devait être pour de bon.
Le mouvement s'accentue. 5 microradiants. Eh ? Vous avez senti cette secousse ?
Parfaitement. Prenez toutes les mesures à bord pour appareiller. Il faudra peut-être partir au plus vite.
Vous croyez qu'un changement d'orbite est imminent ? Nous sommes encore loin du périhélie.
Je ne pense pas que Rama fonctionne selon nos normes. Nous sommes bientôt à Beta. Nous allons y faire une pause de 5 minutes. Ces 5 minutes étaient dérisoirement insuffisantes, mais elles parurent durer un siècle. Car cela ne faisait plus de doute. La lumière baissait, et vite. Malgré les projecteurs dont ils étaient encore tous équipés, ils répugnaient à l'idée de l'obscurité. Leur accoutumance psychologique à ce jour sans fin était telle qu'ils retrouvaient difficilement le souvenir des conditions de leur exploration initiale du monde. Ils étaient talonnés par le besoin d'échapper, de sortir à la lumière qui brillait à 1 kilomètre d'eux derrière ces parois cylindriques. « J'appelle le moyeu, » dit Norton. « Le projecteur est-il toujours opérationnel ? Nous risquons d'en avoir besoin rapidement. »«
Oui, capitaine. Voilà. »
Une rassurante étincelle de lumière s'alluma dans le ciel à 8 kilomètres de leur tête. Malgré l'obscurcissement du jour raméen, son éclat parut étonnamment faible. Mais, comme avant l'aube, le réflecteur les guiderait en cas de besoin. Norton eut le pressentiment que cette montée serait la plus longue et la plus éprouvante pour les nerfs. Quoi qu'il arrivât, il serait impossible de précipiter l'allure. S'il surestimait leur force,
Ils s'écrouleraient quelque part sur la pente de l'escalier vertigineux et devraient attendre que leurs muscles malmenés acceptassent de continuer. Ils étaient certainement à présent l'équipage le plus apte aux missions de l'espace, mais leur corps avait ses limites. Après une heure d'escalade ininterrompue, ils avaient atteint la quatrième partie de l'escalier, à 3 kilomètres environ de la plaine. À partir de là, ce serait plus facile, car la gravité était déjà 3 fois moins forte que sur Terre. À l'exception de brèves et sporadiques secousses, il ne s'était rien produit d'anormal et la lumière était encore plus que suffisante. Retrouvant un certain optimisme, ils se demandèrent même s'ils n'avaient pas trop tôt battu en retraite. Par contre, il était définitivement acquis qu'ils ne retourneraient jamais en arrière. Ils venaient tous de fouler pour la dernière fois le sol de la plaine de Rama. Alors qu'ils prenaient 10 minutes de repos sur la quatrième plateforme, Calvert s'écria
« Quel est ce bruit, capitaine ?»«
Un bruit ? Je n'entends rien. » »«
Un sifflement suraigu, mais qui baisse vers le grave. Vous devez l'entendre. » »«
Vous avez l'ouïe plus fine que moi. »
Oh, ça y est. »
C'était un sifflement qui semblait venir de partout. Il fut bientôt intense, assourdissant même, tandis que sa fréquence baissait rapidement. Soudain, il se tut, pour reprendre quelques secondes plus tard. La même glissade sonore, qui avait le caractère irrésistiblement funèbre d'une sirène de phare lançant son signal dans la nuit brumeuse. C'était un message, et des plus urgents. Il n'était pas destiné à leurs oreilles, mais ils le comprenaient. Puis, comme pour le souligner, les lumières s'en mêlèrent. Elles commencèrent par baisser, jusqu'à s'éteindre presque. Puis elles fulgurèrent de points lumineux, semblables à des boules de foudre qui parcoururent les étroites vallées qui, tout à l'heure, éclairaient le monde, se dirigeant des pôles vers la mer en un balai réglé sur un rythme hypnotique qui ne pouvait avoir qu'un seul sens. « À la mer !» disaient les lumières. « À la mer !» L'ordre avait quelque chose d'irrésistible, et chacun des hommes ressentit le besoin impérieux de rebrousser chemin et de chercher l'oubli dans les eaux de Rama. Norton appela le moyeu.
« Voyez-vous ce qui se passe ? »
demanda-t-il d'une voix alarmée. La voix de Pieter lui répondit, sensiblement altérée par la crainte.
« Oui, capitaine. J'ai braqué le télescope sur le continent sud. Il y a encore des centaines de biotes là-bas, et non des moindres. Des grues, des bulldozers, des foules, des boueurs. Et tous se ruent vers la mer à une vitesse que je ne leur connaissais pas. Voilà une grue. Elle se jette du bord de la falaise. Exactement comme Jimmy, sauf qu'elle descend plus vite. Elle s'est écrasée en touchant la surface. Les requins arrivent. Ils la mettent en pièces. Ce n'est pas beau à voir. « Attendez, je me recentre sur la plaine. Voilà un bulldozer qui a l'air endommagé. Il n'arrête pas de tourner en rond. Des crabes se jettent sur lui et le déchiquettent. Capitaine, je pense que vous feriez mieux de rentrer tout de suite. »«
Faites-moi confiance, » dit Norton, qui exprima ainsi le fond de sa pensée. « Nous rentrons le plus vite possible. » Rama se refermait sur lui-même comme un bateau à l'approche de la tempête. Norton ne put se défaire de cette impression à laquelle il ne trouvait cependant pas de fondement logique. Mais la logique semblait l'avoir quitté. Deux impulsions se livraient combat dans sa tête. Le besoin de sortir et le désir d'obéir à l'injonction des boules de feu qui parcouraient toujours le ciel de leur fulgurance, lui ordonnant de se joindre à la fuite des biotes vers la mer. Une autre section de l'escalier. Une autre pause de 10 minutes. Pour permettre à ses muscles d'éliminer les toxines de la fatigue. Puis, l'escalier de nouveau. 2 kilomètres encore à gravir, et surtout, ne plus penser à ce qui se passait. Les glissants d'eau hallucinants des coups de sifflet cessèrent brusquement. Au même moment, les boules de feu sillonnant les rainures des vallées droites stoppèrent leur balai hypnotique. Les 6 soleils linéaires de Rama retrouvèrent leur éclat continu. Mais ils faiblissaient rapidement, et parfois clignotaient, comme si de terribles soubresauts secouaient l'agonie des sources d'énergie. Les hommes sentaient par instants le sol trembler sous leurs pieds.
On leur annonça depuis la passerelle que Rama, avec son imperceptible lenteur, continuait à virer, comme l'aiguille d'une boussole excitée par un très faible champ magnétique. C'était peut-être un motif de soulagement. Car ce serait à l'arrêt du mouvement de Rama que Norton pourrait craindre le pire. Pieter annonça que tous les biotes avaient disparu. Sur toute la surface interne de Rama, le seul mouvement était celui des êtres humains qui se hissaient avec une lenteur fastidieuse sur la paroi courbe du dôme nord. Norton avait depuis longtemps maîtrisé le vertige ressenti lors de la première ascension, mais une autre crainte s'insinuait maintenant dans son esprit. Ils étaient terriblement vulnérables sur cette pente qui menait de la plaine au moyeu. Et si, après avoir achevé son changement d'assiette, Rama accélérait? La poussée se ferait sans doute dans l'axe, mais dans quel sens? S'il venait du nord, il n'y aurait pas de problème. Il serait plus fortement plaqué contre la paroi qu'il gravissait. Mais si elle venait du sud, il risquait d'être projeté dans l'espace et de retomber très loin, en contrebas sur la plaine. Il tenta de se rassurer avec la pensée que la poussée serait de toute façon faible. Les calculs du docteur Pereira avaient été des plus convaincants. Rama ne pouvait se permettre une accélération supérieure à 1/50 de G. Sinon, la mer cylindrique déborderait la falaise sud pour inonder tout le continent. Mais le docteur Pereira était bien à l'abri sur Terre et ne se livrait pas à ses calculs sous la voûte métallique d'un ciel qui paraissait devoir leur tomber sur la tête. Et si Rama, comme l'Égypte, était soumis à un régime d'inondation périodique? Non, c'était ridicule. Il était absurde d'imaginer que ces milliards de tonnes pourraient bondir inopinément pour leur faire lâcher prise. Toujours est-il que Norton poursuivit l'ascension sans jamais perdre longtemps contact avec la main courante. Des siècles plus tard, ils furent en haut de l'escalier. Il ne restait plus que quelques centaines de mètres de cette échelle semblable à une voie ferrée. Il n'était plus utile d'escalader à proprement parler ce dernier tronçon, puisqu'un seul homme sur le moyeu pouvait, en allant sur une corde, en hisser un autre dans la gravité rapidement décroissante. Au pied de l'échelle, un homme ne pesait déjà plus que 5 kilos. Au sommet, son poids était pratiquement nul. Norton, calé sur le nœud de chaise, put donc se détendre, se raccrochant de temps en temps à un barreau pour contrebalancer la force de Coriolis qui, bien que très faible, tentait toujours de l'écarter de l'échelle. Il avait presque oublié ses muscles contractés lorsqu'il contempla une dernière fois l'étendue de Rama. La lumière était sensiblement celle d'un clair de lune sur Terre. Le paysage était parfaitement distinct à ses moindres détails près. Le pôle sud était partiellement masqué par une brume rougeoyante dont seule la pointe de la grande corne émergeait sous forme d'un point noir et en vue de face exactement. Le continent qui s'étendait derrière la mer, aussi soigneusement cartographié qu'inconnu, présentait la même marqueterie disparate qu'à l'accoutumée, mais la perspective qui en raccourcissait les lignes rendait son examen peu gratifiant et Norton ne le parcourut que brièvement du regard. Il contourna du regard l'anneau de la mer et remarqua pour la première fois le dessin régulier des turbulences, comme si les vagues se brisaient sur des écueils répartis géométriquement. La manœuvre de Rama produisait un effet certain, mais à peine sensible. Il était sûr que s'il avait demandé au sergent Barnes de reprendre la mer sur sa défunte Resolution, elle aurait même, dans ces conditions, obéi avec enthousiasme. New York, Londres, Paris, Moscou, Rome. Il dit adieu à toutes ces villes du continent nord et espéra que les Raméens lui pardonneraient les dommages qu'il avait pu y commettre. Il comprendrait peut-être que c'était pour le bien de la science. Puis, il fut au moyeu. Des mains empressées se tendirent pour le saisir et pour lui faire passer en hâte les sas. Il ne put maîtriser le tremblement de ses bras et de ses jambes surmenées. Incapable ou presque de coordonner ses mouvements, il se laissa avec bonheur manipuler, comme un paralytique. Le ciel de Rama se rétrécit au-dessus de lui, tandis qu'il s'enfonçait dans le cratère central du moyeu. Puis, comme la porte intérieure du sas se refermait sur la vue de ce monde, il se prit à penser. Étrange que cette nuit doive tomber, maintenant que Rama est au plus près du soleil.